Nous allons ouvrir le Saint-Livre. Commencez par un verset que je vous encourage à noter. Dans Romains au chapitre 2, au verset 11, le Seigneur, dans un contexte de grâce et de colère que présente l'apôtre Paul, la grâce de Dieu qui est pour ceux qui obéissent, la colère de Dieu qui sera pour les rebelles, il y a un verset qui va nous servir, d'ailleurs qui pourrait même servir de titre à la prédication, Romains chapitre 2, verset 11. C'est un verset que nous devons comprendre. Pour comprendre cette prédication, il faut vraiment comprendre ce premier verset. Romains chapitre 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Vous le croyez, ça, mes frères et sœurs ? C'est une loi du royaume. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas de petit copain. Il n'y a pas de passe-droit. On est tous sur le même pied d'égalité. On est tous différents. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume. On est tous les uns à côté des autres, même s'il y a des responsables, même s'il y a des gens qui peuvent être élevés au-dessus des autres, c'est vrai. On est tous égaux devant Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. La deuxième lecture, c'est dans l'épître de Jacques, où à trois reprises, dans le chapitre premier, on va lire que ce qui nous intéresse, il nous est dit que nous pouvons nous tromper par de faux raisonnements. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de méditer le premier chapitre de Jacques, mais ça vaut vraiment la peine, l'épître de Jacques, parce que c'est vraiment la vie chrétienne sous son aspect le plus pratique qui soit. Et si c'est écrit, c'est parce que ça peut nous arriver. Jacques, chapitre 1, verset 16. Donc on va lire que les textes qui nous intéressent dans ce premier chapitre. Jacques, chapitre 1, verset 16. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'est même pas parlé de grâce, il parlait de grâce excellente. Ne nous trompons donc pas, mes frères, la grâce, elle descend du Seigneur. Verset 22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc on peut l'écouter et s'imaginer qu'on obéit parce qu'on est d'accord. Et ça, c'est une des ruses du diable, c'est une de ses ruses préférées. Écouter, mais en fin de compte, se tromper parce qu'on n'obéit pas. Et verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme, elle est vaine. » Donc trois contextes où je vous encourage à méditer pour voir combien nous pouvons nous tromper dans notre vie chrétienne. Au chapitre 4, au verset 5, il y a une question. Vous savez que moi j'aime les questions, parce qu'elles viennent de Dieu, et qu'elles sont toutes intelligentes. Toutes. Si vous pensez qu'il y a une question de Dieu qui n'est pas intelligente, eh bien c'est que vous ne le connaissez pas. Jacques, chapitre 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il recommence. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il y a des gens qui sont intéressés par cette affaire. Pas par la grâce. Une grâce plus excellente. Dans le livre des Actes, il nous est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Vous pouvez être sûr que si une grande grâce reposait sur eux, c'est qu'une grande obéissance devait précéder. C'est clair. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Ces trois lectures, pour amener un sujet qui m'a préoccupé depuis plusieurs jours, à savoir, dans le premier livre des Chroniques, je vous ai dit que dans le livre des Chroniques, il y a 29 chapitres, 29 chapitres, sur les 29 chapitres, il y a 15 chapitres de noms. Vous vous rendez compte? 15 chapitres de noms. Vous avez l'impression de lire l'annuaire téléphonique, voyez? Mais en fait, ce serait le nom de nos enfants, on le lirait peut-être le plus mieux. Vous ne croyez pas? Ça serait le nom de tous les chrétiens de Sainte-Agne, est-ce que vous le liriez? Tiens, moi, quels sont les noms que Dieu a retenus? Voyez? Vous l'avez lu, le livre des Chroniques? Ou est-ce que ça fait partie des chapitres que vous passez allègrement? Allez, répondez-moi. Je sais comment vous faites. Donc, dans ce chapitre, on pourrait prendre quelques noms, voir la signification de ces noms. Vous savez, moi, je me suis posé la question, pourquoi il y a tant de chapitres Vous avez vu? Des noms. En veux-tu, en voilà. Des noms. En plus, si vous êtes enceinte, mesdemoiselles ou mesdames plutôt. Mesdames. Voilà, vous avez le choix de trouver un prénom. Dans cette litanie de noms, tout d'un coup, ressort le témoignage d'un homme. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Et Dieu a voulu, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, si c'est dans la Bible, c'est que c'est quoi? C'est important. Si c'est dans la Bible, c'est utile. Mais on en a fait n'importe quoi de ce verset. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Vraiment, c'est impressionnant, ça ressort d'une manière particulière, comme un diamant là, qui ressort d'un bijou, vous voyez, d'une chaîne. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Yahébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yahébet, en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Yahébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis, et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension, vous avez des points de suspension ? Ça laisse sous-entendre qu'il n'avait pas fini sa prière, et que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors dernièrement, on m'a passé plusieurs livres sur la prière de Yahébet, un chrétien d'ici, et franchement, j'ai trouvé que c'était dommage que les chrétiens se fassent piéger par des enseignements qui paraissent bibliques. Alors on va voir, pour moi, ce que ce texte enseigne vraiment. Vous savez, aujourd'hui circulent dans le corps de Christ plusieurs autres évangiles, des fausses doctrines. Paul va très loin, il dit des doctrines de démons, parce que les gens aiment les choses chatoyantes, etc. Il y a l'évangile de prospérité, etc. Donc, mais là, et ce texte a été, pensez donc ce texte, il a été utilisé, alors là, en veux-tu, en voilà, pour justifier la doctrine de la prospérité. Si tu me bénis, voilà, et Dieu l'exaucant. Et pourtant, il y a la bénédiction. Et la bénédiction, elle existe. On demande la bénédiction, on ne va pas demander la malédiction. C'est évident. Yahébet, ça veut dire souffrance, douleur. Vous savez, la vie, elle est faite de souffrance. Vous êtes d'accord? Il y a des bénédictions, mais il y a de la souffrance. Dans l'épître de Jacques, on ne l'a pas lu, Paul, Jacques dit, si quelqu'un a la souffrance, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il prie. Pas qu'il parle à Dieu, qu'il prie. Et déjà, il prie, excusez-moi, mais il prie bêtement. On a critiqué les catholiques qui récitaient le Notre Père. Je peux vous dire qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ne font pas mieux. Ils récitent des prières. Et quand la Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, ça veut dire aussi qu'il écoute. Qu'il écoute ce que Dieu a à lui dire. Parce que quand on souffre, il faut quand même sortir de la souffrance. Oui ou non? C'est pas la volonté de Dieu que nous nous y maintenions, même si Dieu l'a permis. Cette nuit, je me suis réveillé avec ce verset, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Vous croyez que le Seigneur Dieu s'est moqué de son Fils, le Seigneur Jésus? La souffrance, il faut l'expliquer. Et cette fameuse prière de Yahébet qui a plu à Dieu, parce qu'elle elle résume quelque chose, et c'est ce qu'on va voir. Mais il faut parler de la souffrance. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui souffre. Il y a des gens qui souffrent, des parents qui souffrent, des enfants qui souffrent. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, on disait, c'était, ça tenait debout. On disait, quand j'étais petit, on disait, oh, toi, t'es jeune, t'as pas de problème. Et c'est vrai qu'à l'époque, les jeunes avaient quand même beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça de la jeunesse? Moi, je peux vous dire qu'il y a des enfants qui ont déjà que 10 ans, et croyez-moi, ils ont déjà chargé. Et la souffrance, elle existe. Et on ne peut pas la balayer au nom de la joie du Seigneur, qui est une réalité en plus. Et il y a un contexte dans cette prière qu'il faut vraiment expliquer. C'est pour ça que je vous le redis. tant que vous ne connaissez pas bien la Bible, ne lisez pas n'importe quoi. Ou alors, demandez-nous. Demandez-nous des livres que nous avons à la publication, et franchement, que l'on filtre, qui sont bien. Mais ne lisez pas n'importe quoi. Au nom de la bénédiction, vous allez vous fourvoyer dans des voies qui vont vous perdre. J'aime beaucoup David. Je ne sais pas vous. Dans 40 livres de la Bible, il en est parlé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça prouve à combien cet homme a marqué l'histoire. Cet homme a beaucoup souffert. Bien sûr qu'il a composé le psaume 23. Vous connaissez des passages de David? Vous pourriez m'en citer quelques-uns? Le psaume 23, je viens de le dire. Est-ce qu'il y a des paroles de David qui vous ont marqué? Psaume 51, c'est le psaume de repentance. C'est un psaume où il exprime une profonde repentance et Dieu va le restaurer alors qu'il mérite... Qu'est-ce qu'il mérite, David? La mort. Il n'y a pas de favoritisme. Le roi avait commis l'adultère, le roi avait tué un de ses officiers, il méritait la lapidation. Mais David, il connaît Dieu. Il le connaît. Donc, il développe cette communion dans une profonde repentance et il obtient la grâce. Le psaume 23 est souvent le psaume préféré des chrétiens. Je pense que si ce psaume-là était vraiment vécu, les chrétiens seraient dans la victoire. Oui ou non? Vous connaissez des passages du psaume 23? Aidez-moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car, allez, un autre texte. Allez. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger. Tu vois un duit de ma tête et ma coupe déborde. Ça a été dit. Il a été dit. Et vous n'avez pas dit le verset que je voulais. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Alors, est-ce qu'on réalise la bénédiction que David est en train... Mais il n'y a pas eu que ça dans la vie de David. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Vous voyez, le gars, il n'a pas du tout peur de l'adversité. Il sait qu'il va y avoir une table, c'est-à-dire une bénédiction. Si l'Éternel est mon berger, si il restaure mon âme, il est hors de question de s'approprier le psaume 23 si le Seigneur ne restaure pas notre âme. C'est le pivot, il reste sur mon âme. David a vécu des choses merveilleuses, il l'exprime, des milliers de cantiques sont tirés des psaumes de David. Mais j'aimerais que l'on prenne quelques versets qui indiquent la souffrance de David. Il a énormément souffert, cet homme, et il a vécu tout cela dans plein de situations différentes, jusqu'à ce qu'il accède à la royauté, et après la royauté, il a été berger, il a été roi, enfin, c'est impressionnant la vie de David. Mais c'est un homme, il n'a pas fait que chanter avec sa harpe, dans les verts pâturages, ou dans le palais. C'est un homme qui a exprimé beaucoup de souffrance, parce que de la souffrance, il y en a. Et ne laissez pas les gens qui ne connaissent pas la parole, vous culpabilisez parce que vous traversez des moments de souffrance. Par contre, il ne faut pas s'y installer. C'est comme le désert. Dieu permet les déserts, mais il ne faut pas s'y installer. Il faut en sortir le plus vite possible. Vous connaissez ce psaume, ce texte dans le Cantique des Cantiques, je crois que c'est le Cantique 8, verset 5, qui est celle qui sort du désert, appuyée sur qui? Ah non, c'est l'Ancien Testament. Appuyé sur son bien-aimé. On ne peut pas sortir du désert si on n'est pas appuyé sur le bien-aimé. Alors, on peut lire quelques textes. Regardez par exemple avec moi, alors on n'a que la marre du choix. Psaume 86. Vraiment, je vous demande de relire les psaumes. Moi, quand je vois que les gens me disent « Oh, les psaumes, ce sont mes livres préférés. » Eh bien, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Regardez, allez. C'est important, mon introduction elle va être longue, le développement va être très court sur la prière de Yahweh, mais sur l'introduction, et je sais que c'est ce que Dieu veut. Regardez David, psaume 86. Alors, verset 2, verset 1er. Prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent ou pauvre. Pauvre, on pourrait dire, mais quel hypocrite! Quel hypocrite! C'est le roi d'Israël, il dit qu'il n'a rien. Mais spirituellement, il dépendait tellement de Dieu que sa fortune ne le préoccupait pas. Vous voyez? On va prendre notre texte. Regardez dans le psaume 25. C'est des centaines de textes. Écoutez-moi bien. Des centaines. Mais il est dans une honnêteté, et c'est ça qu'il faut comprendre pour que Dieu puisse nous aider à découvrir cette bénédiction que Yahvéth a découverte. Parce qu'il était honnête. Regardez, psaume 25, verset 15. « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds. » Où il est ? Du filet. Filet, vous savez, c'était bon, aujourd'hui, vous savez ce que c'est un filet ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Parce que voyez, des fois, on lit, mais je ne dis pas ça pour vous piéger, justement. Je dis, vous savez, c'est des filets, c'est des filets que l'on mettait dans les arbres. Dans les arbres, il n'y a pas que des filets pour les poissons. C'est, les filets dont il est parlé là, c'est des filets pour les oiseaux. On mettait des filets à l'orée des bois, et on faisait partir les oiseaux, et les oiseaux, quand ils arrivaient, c'était trop tard. Ils étaient pris dans le filet. Et David exprime qu'il est là, il a été piégé, parce que l'ennemi il est rusé, pour qu'on ne voit pas certains pièges. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné, malheureux. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Mais lisez-le, mes frères et sœurs. Quand vous le traverserez, croyez-moi, vous avancerez. Les angoisses, David a été angoissé, les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Bon, il y a un petit lien de cause à effet là aussi. On le voit plusieurs fois. Je pense au psaume 41, quand il dit, vous voyez, au verset 5, il est honnête David, il s'est souvent loupé, il a souvent péché, mais croyez-moi, il a été honnête. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes, on va le voir si on a le temps. Psaume 41, verset 5, je dis Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Pourquoi ? Pourquoi il demande la guérison de son âme, pas de son corps, le corps aussi, mais fait, car j'ai péché contre toi. Et c'est pas valable que pour... regardez Job, mais mes frères et sœurs, moi je suis peiné lorsque je vois des chrétiens qui disent, oui, si tu es chrétien, tu souffriras plus. Non, si tu es chrétien, tu seras sauvé. Oui ou non ? Ça tient debout ce que je dis ? Et on entend des fois les évangélistes. Les évangélistes, souvent, ils ont peut-être pas assez de profondeur. Venez à Jésus et vous n'aurez plus de problème. C'est pas vrai, venez à Jésus et vous serez sauvés. Alors vous allez me dire, tu pinailles. Non. Job, chapitre 40. Vous connaissez l'affaire de Job ? Tout le monde la connaît, plus ou moins. Job, chapitre 40. Ça fait un moment que les amis ont vraiment fatigué Job. Donc Dieu intervient avec des questions, comme je l'ai dit l'autre jour, qui apparemment n'ont rien à voir avec ses problèmes. Et il lui parle. Comment il lui parle ? Job 40, verset 1er. Il faut le comprendre, mes frères et sœurs. On ne peut pas étudier la prière de Yahvéth si on ne comprend pas la souffrance. Job 40, verset 1er. L'Éternel répondit à Job dans le sofa qu'il venait d'acheter. C'est ça que vous avez écrit ? Donc... L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Chapitre 38. Dieu lui a parlé et ce n'est pas pour ça qu'il en est sorti. Chapitre 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Alors on pourrait bien sûr multiplier les exemples. Mes frères et sœurs, c'est beaucoup de gens rétrogrades. Beaucoup de chrétiens. Et la prophétie de la parabole des 10 vierges prouve que beaucoup de chrétiens seront démunis, ne seront pas prêts, ne seront pas huilés, ne seront pas remplis du Saint-Esprit suffisamment, et la moitié des chrétiens, quand Jésus va revenir, ne seront pas prêts. Je suis convaincu que c'est par rapport à la doctrine de la prospérité, je suis persuadé que c'est par rapport à des doctrines sur la sécurité éternelle qui ne sont pas bibliques, ou par rapport à des textes comme celui-ci qu'on a expliqué n'importe comment. C'est sûr que si vous achetez ces livres sur la prière de Yahbet après mon exhortation, vous allez voir les pièges, c'est clair. Vous allez les voir, si vous prenez le temps. La souffrance, elle est là. Jérémie souffrait. David a souffert. Jésus a été appelé homme de douleur et de souffrance. Il y a de la souffrance. Alors, ça va très loin cette affaire. Là, j'ai fait une petite introduction, écoutez-moi. De Jésus qui était saint, pur, sans tache, parfait, il était l'homme parfait, il n'a pas commis un péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre un péché. S'il avait commis un péché, nous étions tous perdus. Mais il est dit, écoutez bien, qu'il a appris l'obéissance, il n'a pas amené l'obéissance, il l'a amené, bon, c'est sûr, parce que je sais qu'on va me le dire après, il a amené l'obéissance, mais il est dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyons vraiment intelligents. C'est que si lui a dû apprendre l'obéissance par la souffrance, mais qui croyons-nous que nous sommes? Nous serions meilleurs que lui si nous pouvons apprendre sans souffrir. D'accord? Nous serions meilleurs que lui. Alors ça c'est le comble de l'orgueil, c'est clair. C'est sûr. Inconscient, mais c'est de l'orgueil. La souffrance, elle est nécessaire, mes frères et sœurs. Alors, si vous voulez... Alors, écoutez-moi bien. Si vous voulez rester des chrétiens de nom, vous pouvez trouver un travers. Une voie de garage. Les chrétiens de nom peuvent s'en sortir. Ils peuvent trouver une voie facile et arriver à trouver un compromis. Les textes bibliques sont nombreux. Mais ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui veulent être utiles, ceux qui veulent aller jusqu'au bout, doivent apprendre l'obéissance. Si vous voulez juste être un chrétien qu'on appelle le chrétien du dimanche matin, ce n'est pas parce que vous venez que le dimanche matin que vous êtes un chrétien du dimanche matin, mais si vous voulez être un chrétien de nom, cette prédication n'est pas pour vous, vous pouvez rentrer. Mais ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui veulent entendre un jour dire Seigneur, ceux qui veulent entendre dire entre bon et fidèle serviteur, tu as été utile. Ceux qui veulent être utiles apprendront l'obéissance par la souffrance. L'obéissance de cœur, pas une obéissance contraignante, obligatoire, il faut que j'obéisse, il faut que je prie, il faut que... Non, cette obéissance, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Ne rétrogradez de suite, ça ne tiendra pas. Et il y a des chrétiens, alors là, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, tout ça pour vous amener là. Il y a des chrétiens qui sont toujours en souffrance. Et là, c'est pas bon non plus, parce qu'il y a un temps pour tout. Et il y a des chrétiens qui sont toujours en souffrance. Pourquoi? Mais écoutez, mes frères et sœurs, parce qu'ils n'apprennent pas ce que Dieu veut leur apprendre. Et ça va loin, cette affaire-là. Parce que si on prenait le temps, vous voyez, d'étudier le livre de l'Exode par rapport à ce sujet. C'est très intéressant. Ils sortent d'Égypte, c'est génial, c'est l'image du chrétien qui sort du monde, il est délivré de Satan, il entre dans le royaume de Dieu, il doit apprendre plein de choses avant de rentrer dans le pays de la promesse, et il va commencer à s'énerver, à murmurer, à tenter Dieu. Le Seigneur le dit, mais ils m'ont tenté 10 fois. À Moïse, mais tu te rends compte, ils m'ont tenté 10 fois déjà. On voit bien que ça commence à aller mal. Ils veulent les concombres, ils commencent même à regretter l'Égypte. Ils ont souffert pendant 400 ans comme des malades, comme des esclaves. Ils ont crié à Dieu, et quand ils se retrouvent 3 semaines après dans le désert, oh, c'est les oignons et les concombres et les courgettes, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ben, c'est l'image des gens qui... Franchement, quand des gens qui disent, ah, le monde... Moi, j'ai lu un bouquin il y a quelques années de ça. Le pasteur, il doit être fatigué, vraiment fatigué. Le pasteur, vous savez ce qu'il dit? Ah, qu'est-ce que je regrette, la communion fraternelle. Quand j'allais dans les cafés avec les copains, il y avait vraiment une communion fraternelle. Je dis, mais ce livre, je ne vais pas le conseiller. Non, mais le pasteur, là, il a vraiment, 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 il était mal. Mais c'est écrit.
quand on ne connaît pas Dieu, c'est évident qu'on n'apprendra pas l'obéissance. Et ils ont tenté Dieu, Dieu leur a parlé, Moïse les a cadrés, et il leur a dit, etc. Mais le problème, c'est que le péché, c'est grave, c'est archi grave. Parce que le péché, ça nous maintient dans la souffrance et dans le désert, même si la souffrance est nécessaire pour grandir et apprendre à obéir. Mais le péché, c'est une question de comportement. C'est une question de comportement. Mais le péché, à force de le cautionner, écoutez-moi bien, je sais que plusieurs ne vont peut-être pas comprendre, mais il faut y arriver. Le péché, lorsqu'il est accepté, se transforme presque toujours en rébellion. Et si le péché est une affaire de comportement, la rébellion, c'est une affaire de cœur. Ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas forcément quelqu'un de rebelle. Mais c'est beaucoup plus grave. Parce que le péché a bloqué les gens dans le désert, mais la rébellion, vous vous rappelez ce que ça a fait, la rébellion de la révolte de Corée? Qu'est-ce que ça a fait, la rébellion? La terre s'est ouverte. Alors que Dieu a promis que le séjour des morts ne s'ouvrirait pas. Et là, la terre s'est ouverte. Le jugement est tombé. Parce que les gens sont devenus rebelles. À la place d'écouter la parole de Dieu, ils ne s'en sont pas rendus compte. Et en plus, c'est devenu contagieux. Vous lirez le Nombre chapitre 16. Tu te dis, bon, avec ce jugement, tout le monde va se tenir à carreau. Tout le monde va se ressaisir. Il en est mort 14 700. C'est contagieux. Dans une église, c'est contagieux, la rébellion. Mais les gens, ils ne réalisent même pas. Le monde est tellement rebelle. Le monde est tellement dans la misère que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont rebelles. Et tout est fait pour que les gens se rebellent. Ça commence par la moquerie, on commence à se moquer. Vous avez vu, moi je regarde presque plus la télé, mais les quelques fois où je regarde pour les informations, on voit un imbécile qui est en train de se moquer d'un président. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que j'exagère? C'est obligé que vous tombiez dessus. Moi des fois je regarde 5 minutes par jour et j'y tombe dessus. Et les gens, ils rigolent. C'est l'école de la rébellion. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent rien au péché. Est-ce que j'exagère? Si les chrétiens comprenaient ce qu'est le péché, si les chrétiens comprenaient, ils réagiraient, oui ou non? Un chrétien qui ne réagit pas. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui est venu ici, peut-être il est là, avec sa copine. Ça fait 20 ans qu'on attend. On attend, il y a des gens qui sont sages, pour mettre notre vie en règle, mais on n'a pas le temps de mettre notre vie en règle. J'ai dit, vous êtes désobéissant. Je ne pense pas qu'ils sont revenus. Quand on n'est pas conscient du péché, on ne peut pas être obéissant. Vous me suivez? Mais quand on n'est pas conscient de la rébellion, je peux vous dire qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Et dans l'Église, vous comprenez mon message? Il y a de la souffrance qui est utile, bien sûr, et de la souffrance inutile, parce qu'on peut souffrir inutilement à cause de son péché que l'on ne règle pas. Il y a des épreuves et tout cela, ça contribue, j'avance, j'accepte. J'accepte l'épreuve. Mais relisez la parole de Dieu. Relisez comment Joseph, à 17 ans, 17 ans, c'est pas vieux, 17 ans. À 17 ans, Joseph, ses frères jaloux. Vous avez vu, la jalousie, ça les a amenés à avoir une haine. La haine, ça les a amenés à pituler un plan pour essayer de tuer leur propre frère. Et quand ils l'ont vu arriver, de suite, ils ont concocté un truc, tuons-le, et ça sera fini de ses rêves stupides, etc., etc. Et par hasard, heureusement qu'une caravane arrivait, ils l'ont jeté dans une citerne. Bien sûr que Joseph peut dire à la fin de sa vie, « Oui, tu m'as béni, oui, tu as étendu mes limites. » Est-ce que Joseph pouvait dire à la fin de sa vie, « Oui, la prière de Jabès, je la fais mienne. Enfin, » c'est l'inverse, mais enfin, est-ce que Joseph a vu la bénédiction de Dieu? Est-ce que Dieu a étendu les limites de Joseph? Est-ce que la main de Dieu a été sur Joseph? Est-ce que Joseph a été épargné de la souffrance à la fin de sa vie? Oui. Mais je peux vous dire que pendant 13 ans, il a souffert. Et la souffrance générait l'obéissance pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Parce que dans une église où les gens sont dans le péché, bien sûr, le désert est là. Mais dans une église où les chrétiens deviennent rebelles, il peut y avoir aucune autorité, aucune bénédiction. Est-ce que je suis soumis aux autorités? Est-ce que c'est écrit « soumettez-vous à toutes les autorités » Il y a une sœur l'autre jour qui m'a dit « Monsieur Gour, je vais vous acheter le coyote ». Vous savez ce que c'est le coyote? Comme ça, vous ne vous ferez pas épingler sur la rocade. Je dis, mais j'ai pas besoin du coyote. Je respecte la vitesse. Pas parce que j'ai forcément envie, mais parce que j'ai envie d'obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il faut se soumettre à l'agent de police? Il ne sait pas, lui, qui représente l'autorité. Mais moi, je peux vous dire qu'il faut se soumettre aux autorités. Dans un couple, est-ce qu'il faut se soumettre l'un à l'autre? Est-ce que vous êtes soumise à votre mari? Alors, je sais que c'est le genre de sujet qui réveille les chrétiennes qui sont en train de s'endormir. Eh bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes soumise à votre mari? Être soumise, ça ne veut pas dire être esclave. D'ailleurs, il est dit « soumettez-vous les uns aux autres ». Être soumise, c'est être sous son mari et l'aider. Et moi, je suis là pour vous aider. Est-ce que vous êtes soumis à votre pasteur? Est-ce qu'il faut se soumettre à son pasteur? Oui, mais pas n'importe lequel. Hein. Attention. Hein. Et on pourrait aborder ce sujet qui est le sujet de la rébellion. C'est un grand sujet sur lequel on ne peut pas se permettre de rire. Le service, c'est merveilleux, servir Dieu. Il faut servir Dieu. Nous sommes tous. Si nous sommes ce matin dans la maison de Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour partager la communion fraternelle, pour partager le pain et le vin, l'enseignement des apôtres, c'est dans le but de le servir. Mais le service ne couvre pas la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Le service ne couvre pas la désobéissance. Vous rappelez ce que Jésus a dit? Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez le service, le don, le ministère, appelez-le comme vous voulez, ne couvre pas la désobéissance. Et la désobéissance, ça vient de l'enfer. » La rébellion, d'ailleurs si Dieu a permis que la terre s'ouvre, c'est pour montrer que ça vient de l'enfer, la rébellion. Et beaucoup de gens sont rebelles, mais ils ne le savent pas. Et ils vont réciter la prière de Yahvéth tous les matins. Et laissez-moi vous dire que si Yahvéth, s'il est sorti du lot, et si Dieu a voulu que cette prière soit là, ce témoignage soit là dans les Saintes Écritures au milieu de ces milliers de noms, c'est parce qu'il y a des gens qui savent rebondir, des gens qui savent surmonter le mal par le bien. Yahvéth, sa mère, vous voyez, sa mère, quand elle a accouché, elle a souffert, elle a tellement souffert que elle a été obsédée par cette douleur. Elle a appelé son fils souffrance, douleur. Vous vous rendez compte? Quand il était à l'école, douleur, viens ici, souffrance, viens ici, viens réciter la leçon. Douleur, à table. Douleur, fais-moi passer le sel. Non mais, on peut l'expliquer comme vous. Le nom, ça a une signification, le nom. Oui ou non? N-O-N. Est-ce que ça, vous avez appelé vos enfants, pourquoi vos enfants? Et là, douleur, viens ici. Souffrance, viens ici. Et il y a des gens qui sont détruits par leur passé. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il faut qu'on souffre. Pierre va tellement loin qu'il dit « Armez-vous de la même manière que Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Alors je pourrais continuer sur la souffrance, mais il faut arrêter bien sûr, ça ne sert à rien. Ce qui est important, mes frères et sœurs, ce n'est pas de souffrir. Il y a des gens qui souffrent et qui continuent à souffrir et qui sont inutiles. Mes frères et sœurs, interrogez-vous. Oui, moi j'ai souffert, tu sais, j'ai souffert. Oui, mais est-ce que tu es utile? Parce que si la souffrance vous a rien appris, ça sert à rien.
Tu sais, moi, avec ce que j'ai traversé, je veux vous dire,
il y a des chrétiens qui disent rien. Et croyez-moi, quand vous écoutez leurs témoignages, ils ont souvent beaucoup plus souffert que ce que vous pensez. Et quand la souffrance du passé, écoutez bien, frères et sœurs, parce que si nous voulons être victorieux et que ça se passe bien pour le service, dans la maison de Dieu, pour le royaume de Dieu, et que Dieu puisse faire son œuvre, et que ça se passe bien quand on va passer devant lui, il faut être honnête, comme David, qui malgré toutes ses angoisses, ses traquenards, ses... mais lisez toutes les fois où il est embarqué dans des situations terribles. Mais il est honnête. Et si nous voulons être utiles, parce qu'en fin de compte, le but, c'est ça, d'être utile. Yahébet a été béni, il est donc devenu utile, parce que la bénédiction, c'est pas pour soi. La bénédiction, c'est pour être utile aux autres. Et si vous justifiez votre souffrance, oui, tu sais, vous savez ce que j'ai vécu, et moi j'ai vécu ça, et moi j'ai vécu ça, et tu comprends. Ah oui, et ça justifie le fait de vivre dans le péché. Quand vous allez passer devant Dieu, vous allez lui dire, tu sais Seigneur, moi j'ai tout le temps eu des hauts, des bas. Bon, je sais qu'on a tous des hauts, des bas, mais il y a haut et bas, et puis il y a haut et bas, et bas, et bas, et bas. Vous voyez, Seigneur, tu sais, j'ai eu des bas parce que voilà, mon père il m'a mis des claques en pagaille. Eh bien, je peux vous dire que je sais ce que... mes frères et sœurs, ça a tué personne. Mais en tous les cas, si la souffrance vous amène à justifier votre péché, votre désobéissance, votre rébellion, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon signe. Il y a une honnêteté devant Dieu. David aussi. Joseph, j'ai beaucoup pensé à Joseph, parce que Joseph, c'est vrai quand même que c'est dur. Quand ça vient de l'extérieur, c'est très acceptable. Quand l'opposition vient de l'intérieur... c'est très difficile. David le dit, mais si c'est un ennemi qui m'outrage, il le dit David, dans un psaume 50, je crois. Si c'est un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Mais toi, mon ami avec qui on allait ensemble dans la maison de Dieu, je ne le supporte pas. Mais la souffrance, c'est ça. La souffrance, c'est dans tous les domaines. Et Joseph, et quand vous le voyez dans la prison, 11 ans après, parce que la souffrance de moi, bon, c'est pas. C'est moins que 2 mois. Etc. Joseph, ça fait 11 ans qu'il souffre à cause de son obéissance, là, par contre. Et il rentre dans la prison, on l'a mis chef de la prison, et il arrive devant deux officiers comme par hasard, deux inconvertis, et il leur dit, mais pourquoi avez-vous un visage si triste ce matin? Parce qu'il y en avait un qui aurait dû être triste. Franchement, je pense que c'était lui. Et c'est pas parce qu'on est emprisonné dans une épreuve qu'on doit s'autoriser à faire la tête. Vous relirez l'histoire de Joseph. Il est en prison. Ça fait 11 ans que ça dure. Et il va voir ces gens, dont un, c'est sûr, a fait une erreur, un péché contre Pharaon. Et regardez cette honnêteté, parce que c'est ça, mais c'est ce que je voudrais que vous compreniez. C'est que Yahébet, s'il est sorti du lot parmi ces milliers de juifs, c'est qu'il a été honnête. Il n'a pas été béni parce que, tiens, Jésus a plouffé, wow, ça fait longtemps qu'il y en a qui n'ont pas été bénis, allez, hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous, on est à la même enseigne. Et si on reproduit cette attitude, on reproduira les mêmes effets. Cette bénédiction, Dieu donne la bénédiction. Il est venu pour donner la vie en abondance. Et Joseph a accepté la souffrance. D'ailleurs, quand ces officiers là, de Pharaon commencent à se plaindre, oui, tatati, tatata, on a fait deux songes, tatati, tatata, qu'est-ce qu'il dit, David, de Joseph? C'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Vous voyez, mes frères et sœurs, sérieusement, je dis ça aux nouveaux convertis, et surtout aux chrétiens de quelques années, au bout de, comme je disais dimanche dernier, au bout de 6 ans, vous savez, ces esclaves qui se faisaient percer l'oreille, ah ben, au bout de 6 ans, on devrait connaître notre maître. Si au bout de quelques années, vous n'avez pas compris que c'est à Dieu qu'appartiennent toutes les explications, eh bien, vous avez des progrès à faire. C'est vrai que Dieu sauve. Dieu sauve, et Dieu... Il y a des gens, je le sais, alors moi, je ne suis pas toujours capable, mais je sais que c'est vrai. Et je n'ai pas à juger. Mais je sais qu'il y a des chrétiens, toutes les semaines, depuis des années, quand ils prennent le pain et le vin, c'est tout le temps, Seigneur, pardonne-moi, c'est tout le temps pour essayer
de retrouver la communion avec Dieu. Alors c'est bien, merci Seigneur.
Oui, oui ou non? Est-ce que quelqu'un peut chaque semaine obtenir le pardon de Dieu?
Ben oui.
C'est un jeu dangereux. Parce que quand on pêche volontairement, c'est pas le sujet, mais quand même il y a des conséquences.
Donc, il y a un état de cœur dans la souffrance. Oui, j'accepte. J'accepte cette injustice. J'accepte parce que Dieu va nous éprouver
dans tous les domaines. Vous entendez? Dans tous les domaines. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses.
Le problème, c'est de savoir combien de temps on va rester au cours préparatoire. Vous avez redoublé à l'école?
Moi, j'ai redoublé, je ne vous dirai pas combien de fois. Je m'étais beaucoup attaché à une maîtresse.
Mais mes frères et sœurs, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont au cours préparatoire, spirituel. Quel c'est dommage! Que c'est dommage, alors que nous avons un Dieu qui devrait nous faire faire des progrès. Parce que quand on vit dans la rébellion, dans la désobéissance, on ne fait aucun progrès. Aucun progrès, il faut qu'on soit honnête. Est-ce que je fais des progrès? Yahébet, il était dans la souffrance. Et il connaissait l'histoire de Joseph, c'est obligé. Il connaissait l'histoire d'Abraham. Tiens, si tu me bénis. Si tu me bénis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous si tu me bénis? Qu'est-ce que vous mettriez? Qu'est-ce que vous écririez derrière, comme explication? Voilà, vous êtes tous pasteurs en formation à Toulouse. Je vous demande de commenter cette parole, si tu me bénis. Qu'est-ce que vous écrivez? Allez, aidez-moi. Comme ça, je n'ai plus besoin de préparer mes prédications. Si tu me bénis, si tu me bénis, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Oui ou non? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Mais il a obéi. Quand Dieu lui a dit fais ça, le lendemain il le faisait. Hier je lisais beaucoup parce que quand il dit ta main est sur moi, si ta main, vous avez vu la prédication là, le texte, si ta main est avec moi. Alors j'ai pris plein de textes, j'en ai pas le temps, mais j'ai pris plein de textes où on voit la main de Dieu sur un homme. C'est ça qu'il faut faire. Parce que dire, si ta main est sur moi, si ta main, ce pasteur-là, dans ses livres, dit, récitez la prière de Yahébet tous les matins et Dieu vous bénira. Et vous verrez, ça marchera. Mais c'est ridicule, mais c'est ridicule. Et il y a des gens qui le font. Et il y a des gens qui acceptent ces bêtises. Si ta main est avec moi, tiens, je vais prendre une concordance. Et je vais regarder dans la parole de Dieu tous les textes où il est dit que la main de Dieu était sur un homme. Mais regardez Ézéchiel. Lisez le livre d'Ézéchiel où il répète souvent « La main de l'Éternel était sur moi ». Vous avez vu le prophète Ézéchiel? Tout ce qu'il a dû faire? Tout ce qu'il a accepté? Oui, la main de l'Éternel fut sur moi. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de favoritisme. Et si nous restons dans la douleur, c'est parce que nous n'avons pas compris les choses. Le salut, je parlais de la joie du salut. Le salut, qu'est-ce qu'il a fait le salut dans votre vie? Pas tous ensemble parce que ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que le salut vous a donné de la joie? Ben oui, la vraie joie elle vient du salut. Mais le salut, il ne nous donne pas que la joie. Le salut, il nous rend obéissants. La foi, elle donne cette joie parce qu'on croit en Dieu, il se révèle, donc il y a une foi véritable qui s'exprime, qui s'extériorise, cette foi qui est enfouie en nous. Elle commence à s'extérioriser, on comprend le salut, elle nous donne la joie. Le salut donne la joie, mais la repentance, en plus de la foi, puisqu'elles sont conjuguées, la repentance donne l'obéissance. Vous me suivez, frères et sœurs? C'est pour vous expliquer la prière de Yahébet. Yahébet a été exaucé. Et Dieu veut exaucer. Et Dieu veut bénir. Et Dieu veut que sa main soit sur vous. Dieu veut vous épargner de la souffrance. Il a demandé et que je ne sois pas dans la souffrance. Bon, mais oui, et Dieu l'a exaucé. Il a commencé, je ne sais pas quel âge il avait quand il a fait cette prière. Avait-il 15 ans, 20 ans, 50 ans? C'est pas écrit, c'est pas grave. Mais où que vous en soyez aujourd'hui, vous pouvez dire, mais c'est vrai, mon passé, arrêtons avec le passé.
Seigneur, tu me béniras.
Je sais que tu veux me bénir. Pourquoi il est mort sur la croix, Jésus, si ce n'est pas pour nous bénir? Pourquoi il est au milieu de nous, le Seigneur? Pourquoi il est là? Franchement, on est là pour lui, mais il est là pour nous. D'accord? Vous me suivez? Pourquoi? Pour nous bénir? Oui ou non? Il est là pour nous bénir. Mais la bénédiction, c'est pas si tu me bénis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi. Tu sais, j'ai la foi, Seigneur, bénis-moi. Mais si vous vivez dans le péché, si vous êtes rebelle, si la foi et la joie du salut ne se poursuit pas par une obéissance joyeuse, la foi, c'est l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, vos dernières épreuves? Ou est-ce que vous êtes toujours à... Je pensais à Charan quand David... Abraham était toujours à Charan. Pas de fruits. Peu de fruits. Vos dernières épreuves, vos dernières souffrances, vos dernières déceptions, tiens. C'est quand la dernière fois vous avez été déçu par quelqu'un? Tout à l'heure? C'est quand que vous avez été déçu la dernière fois? Répondez. Répondez au Seigneur. Et Seigneur, moi je veux surmonter le mal par le bien. Je veux surmonter le mal par le bien. Jésus... Il est tout puissant. On l'a élevé ce matin par les chants. Pourquoi? Il a été élevé à cause de son obéissance. Jaébet, c'est sûr, c'est pas une prière. C'est un état de cœur. Il a choisi de dire non. La souffrance, c'est terminé. Même si ma mère m'a accablé avec ce nom qu'elle m'a donné à la naissance. Mais c'est vrai que vos parents, vos situations... Écoutez-moi, sortez de là. Surmontez le mal par le bien. Jésus a établi le royaume de Dieu par l'obéissance. Et l'Église établira le royaume de Dieu. Comment? Par l'obéissance. Vous comprenez bien pourquoi le diable veut faire des gens rebelles? Moi, je vous assure, j'ai peur, hein. J'ai peur quand je vois ce qui se passe dans le mouvement. Je comprends pourquoi il est dit que le fils de la rébellion va venir, le fils de la désobéissance, le fils... Oui, c'est un rebelle, le diable. Et il y a des chrétiens qui sont plus rebelles qu'obéissants. Et ils s'autorisent de ces trucs, enfin bon. Quelqu'un qui n'est pas sensible au péché, c'est grave. Quelqu'un qui n'est pas sensible à l'autorité de Dieu... C'est pour ça que les gens ne réalisent pas la présence de Dieu. On doit toujours me poser la question, mais pourquoi les gens, ils viennent à l'église débraillés, en tongs, en short le dimanche? Ils me disent, ouais, l'habit ne fait pas le moine. Soyons quand même intelligents. Vous croyez à la présence de Dieu? Est-ce que vous croyez vraiment à la présence de Dieu? Quand les gens ne sont pas conscients du péché, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Quand les gens ne sont pas conscients de l'autorité, ils ne sont pas obéissants. Voilà pourquoi il y a tant de chrétiens qui n'obéissent pas. Et Jaébet, il a choisi d'obéir. Et comme il a obéi, il a dit, Seigneur, bénis-moi. Étends mes limites. Alors les limites, on peut... C'est quoi être, si tu étends mes limites? Tiens, deuxième question pour les pasteurs en formation. Si tu étends mes limites... Vous avez vu le verset 10? C'est quoi pour vous si tu étends mes limites? Ah, oh, si tu étends mes limites... Seigneur, j'ai une maison, mais j'ai un peu de... Tu étends mes limites. Et vous pouvez le justifier avec des textes bibliques. Est-ce que Dieu peut le faire? Non. Mais moi, je crois que si tu étends mes limites, je pense aussi qu'il y a une question spirituelle. Seigneur, tu vois, je veux la bénédiction. Oui, je veux. Et puis c'est la volonté de Dieu. Vous tracassez pas, ne la demandez même pas. Moi, je veux bénir les autres. Et ça va commencer après le culte. Je vais bénir mon frère, ma sœur. Bon, les frères et les sœurs, c'est pas trop difficile. Mais je vais bénir ce pays. Bénir, c'est dire du bien, c'est faire du bien, c'est prier, bénir. Quand vous priez, vous bénissez, Seigneur, je te prie pour ce gouvernement qui a amené la malédiction sur ce pays à cause de ces lois abominables. Seigneur, je te prie pour le gouvernement. Vous bénissez. Il se passe des choses dans l'invisible que vous ne comprenez pas. Vous bénissez.
vous obéissez, vous êtes, et Dieu exauce ses prières. Si je suis dans le péché, si je suis dans la rébellion, la seule prière, écoutez-moi bien, quand vous êtes dans le, vivez volontairement dans le péché, quand vous êtes dans la rébellion, la seule prière que Dieu exaucera, c'est pardon. C'est la seule prière. Et à partir de là, on repart. Il y a des chrétiens, ils peuvent faire 50 000 prières, ça ne servira à rien. La seule prière qu'ils doivent faire, Seigneur, je te demande pardon, je suis un rebelle, je suis tout le temps en train de critiquer les autorités, de critiquer mon patron, de critiquer mon pasteur. Ça peut arriver, ça? Ben oui. Mais remettons-nous en question. On se fait tous piéger, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, on est tous sur le même pied d'égalité, j'ai dit. Mais je le répète, auprès de Dieu, il n'y a aucune considération de personne. Alors si tu étends mes limites, ben oui, je veux que tu étendes mes limites spirituelles. Je veux davantage de sagesse. Est-ce que c'est pas étendre mes limites? Je veux davantage de discernement. Je veux des dons spirituels. Est-ce que vous priez pour avoir les dons spirituels? Est-ce que vous demandez au Seigneur, Seigneur, accorde-moi de... Oui, étends mes limites, je veux spirituellement que mon service... Ne parle pas de ministère, c'est le même mot. Parce que ministère, ça fait un peu pompeux, oui. Mon ministère, oui. Mon service. Je veux que mon service s'étende sur ma famille, déjà ma femme, mes enfants. Vous n'avez pas envie que votre service soit utile aux autres? Étends mes limites. Je veux bénir. Je veux être une source de bénédiction. Quand vous entendez des parents chrétiens dire à leur gosse, espèce d'idiot, tu n'es qu'un imbécile. Vous croyez que vous pensez que j'invente? Vous croyez qu'on parle comme ça à son enfant? Et tu es un idiot, tu as une mauvaise note, mais je t'aime pas. Tu as une mauvaise note, j'apprécie pas, mais je t'aime quand même. Oui ou non? C'est ça la bénédiction. Quand vous entendez quand même des chrétiens dire à leur enfant, leur tripe, je t'aime pas, t'es qu'un imbécile, espèce d'idiot. C'est ça la bénédiction? Quand vous entendez des chrétiens, ma mère elle est bête, ma mère elle est folle, elle est complètement malade. Vivement qu'elle y passe. Je l'ai entendu ça moi. Mes frères et sœurs, vous pouvez réciter la prière de Yahvé sans que vous voudrez, ça ne marchera pas beaucoup. Seigneur, tu vas étendre mes limites. Parce que j'ai vu dans la Bible ce qui se passe lorsque tu étends tes limites sur un homme. Lorsqu'un homme est béni, comment il peut amener la bénédiction sur les autres? Lorsqu'un homme est béni, comment il peut, oui, justement, étendre la faveur sur les autres, la grâce sur les autres? C'est pas écrit que si on parle, qu'on communique une grâce? Alors Seigneur, tu vois mes propos, il faut que je réapprenne à parler déjà, à parler à mon mari, à parler à ma femme, à parler à mes enfants, peut-être ça va être... Mais je vous demande pardon, ce matin la prédication du pasteur, ça m'a interpellé. Les enfants, est-ce qu'on peut demander pardon à ses enfants? Demander pardon à mes enfants, mais n'importe quoi, mais pour qui vont me prendre? Mais moi je l'ai fait plusieurs fois, presque souvent. Je pense pas qu'il m'en ait voulu. Je pense qu'il m'aime encore. Mes frères et sœurs, si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, si tu poses ta main sur moi, vous rendez compte, rien que ça, si on prenait les textes, si tu poses ta main sur moi, vous n'avez pas envie que la main du Seigneur soit sur vous, sérieusement? On termine avec cette pensée. J'avais tant de choses à vous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, ta main, je veux qu'elle soit sur moi? Pas du pipeau, excusez-moi l'expression, pas de l'hypocrisie, pas des gnagnas. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Il n'y a aucun favoritisme. Et c'est vrai qu'on peut s'identifier à cette prière. En commençant à dire le passé, c'est fini. Oui, j'étais dans des églises, je n'en ai pas, où je suis. Eh bien alors, qui sait si ce n'est pas la souffrance, que c'est vrai, que c'est pénible. Seigneur, voilà, j'accepte cette souffrance. Il a plu à l'Éternel, vous vous rendez compte? De le briser par la souffrance. Le Créateur du ciel et de la terre a été brisé. Franchement, 2000 ans ont passé. Est-ce que ça valait la peine? Un peu, non?
Qui c'est qui est assis sur le trône? Qui c'est qui est assis sur le trône? Jésus. C'est un homme qui est assis sur le trône. Avec un grand H. Mais c'est Jésus comme il est ressuscité. Comme les apôtres l'ont vu, c'est lui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ. Et Jésus a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Si nous voulons vaincre comme Yahébet s'est démarqué, eh bien démarquons-nous ce matin. Récitons pas des prières bêtes. Vivons dans l'obéissance. Sortons de la rébellion si nous y sommes fait maître, même sans nous en rendre compte. Ne vous moquez pas. Je vous en supplie, ne vous moquez pas. La moquerie, c'est le premier pas de la rébellion. Et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Jérôme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on veut demander sa grâce à Dieu? Je ne sais pas où nous en sommes. Peut-être on s'est tellement trompé. Qui ne s'est pas trompé? Qui ne s'est jamais trompé? Le Saint-Esprit nous conduira, c'est sûr. Mon frère, ma sœur, vous qui venez pour la première fois, vous qui êtes de passage, l'obéissance fait-elle partie de notre vie? Avons-nous appris l'obéissance? Si vous êtes toujours dans la souffrance, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas apprise, c'est sûr. Par contre, si vous souffrez parce que là, il y a quelques jours, il y a eu une... Ben c'est bien. Vous apprenez. Si vous êtes depuis des années toujours dans la même souffrance, repentez-vous. Je vous le dis, on ne va pas tourner en rond, ça ne sert à rien. Si ça fait des années que vous êtes toujours dans le même problème, repentez-vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas appris. Par contre, si vous êtes dans la souffrance à cause d'une situation qui vient de se présenter, ben réjouissez-vous. C'est écrit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Et le Saint-Esprit vous apprendra. Et vous deviendrez obéissant. Et vous deviendrez utile. Et le royaume de Dieu pourra se manifester dans cette vie de Toulouse. Nous te bénissons pour ta parole. Si toi, Seigneur Jésus, si toi, le grand Dieu de l'univers, tu as appris lorsque tu étais sur la terre l'obéissance par tout ce que tu as souffert, nous savons pertinemment que nous aussi, nous apprendrons la même chose. Te remercions pour la joie du salut, mais nous voulons que ce salut nous rende obéissants. Merci pour la foi, merci pour la repentance, merci pour le pain et le vin qui nous rappellent comment tu as été brisé. Ton obéissance nous permet ce matin d'être là, ta souffrance, ton obéissance dans la souffrance nous permet d'être là. Merci Seigneur d'avoir été jusqu'au bout. Que ton nom soit béni. Qu'il en soit de même pour chacun Seigneur. Donne-nous cette intelligence. Oui, c'est toi qui bénis. C'est toi qui étends les limites. C'est toi qui poses ta main sur les hommes. C'est toi qui nous épargne la souffrance, même si de temps en temps elle est nécessaire. Oui Seigneur, merci de nous rappeler que tu es là pour bénir tes enfants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur.